Ombre était au bord du précipice. Elle se trouvait là, acculée par ses propres questions. Pour elle, habitée par le vertige, essayer d'y répondre, c'était se pencher, se regarder choir, aspirer par le vide. Elle ne se penchait pas, elle cherchait appui, et c'était sur son silence qu'elle croyait le trouver. À force d'errance, Ombre n'attendait plus rien. Elle tournait en rond. Et elle se mouvait un peu par habitude. Son souci n'était plus tant de s'attacher en amont, mais d'apprivoiser sa faim. Pour cela, elle s'appliquait à écouter ses pas. Des pas feutrés pourtant, mais dont le bruit lui parvenait amplifié. Ce vacarme l'occupait. Il la distrayait d'elle-même. Cela lui faisait du bien. Dans son regard d'errante, quel signe inattendu l'obligea à s'arrêter? Quelle lueur la remit aux aguets? Comme s'il n'était besoin de chercher longtemps, tant tout à présent va de soi, Anka revit le village entre le grand fromager et la rivière de Gros Galet, le jour où il se couvrit de croix. Ce fut, il s'en souvient, un après-midi. Les croix d'un rouge vif sentaient la peinture fraîche, deux traits obliques, entrecoupés en leur milieu, deux traits sur la devanture de chaque case, rien que cela. Pourtant, à leur seule vue, les femmes posèrent aussitôt les mains sur la tête en signe d'affliction. Pouvait-on leur dire? Pouvait-on leur expliquer? Ceux qui avaient charge de peindre répondirent qu'il n'y avait rien à dire, rien à expliquer. Ils se contentaient de peindre. Ils n'étaient là que pour exécuter des ordres. Et les voix des femmes se firent soudain cri strident qui déchirait l'après-midi. Et leurs langues volubiles se mirent à lacérer l'indépendance, le gouvernement et tous ces dignitaires qu'elles soupçonnaient pêle-mêle d'être à l'origine de ces croix. Elles ajoutèrent que les choses ne se seraient pas passées de la même manière si les hommes du village avaient été présents. Mais puisque, depuis l'aube, ils étaient en mer, les femmes voulaient bien se taire jusqu'à leur retour. Comme ce silence était pesant. Il rendait interminables les heures qui suivirent. C'était comme si l'après-midi s'attardait à dessein et que sa lumière avait pour seul objet d'éclairer le plus longtemps possible la devanture des cases, afin que chacun voie. Anka voyait, mais ne mesurait l'importance de cet après-midi qu'à la seule gravité du visage de Tat, à son impressionnante fixité qui faisait qu'une mouche était venue s'y poser, allait nonchalamment du front à la joue, sans être dérangée par le moindre frémissement d'un muscle. Anka voyait, son aïeul avait mal. En effet, Rediwa était si affecté que malgré l'insistance de l'épouse de son fils ce soir-là, il refusait de toucher au repas. Rien que d'imaginer le froissement en lui et les larmes qui ruisseleraient si Tat depuis longtemps n'avait désappris à pleurer, Anka sentit un pincement, là, dedans la poitrine, ainsi qu'une immense envie de se blottir contre Tat, de lui murmurer il ne savait quoi qui rendrait nécessaire le mouvement de la main de l'aïeul qui en dit long en caressant.
« Parle-moi, Tat, dis-moi ce qui te blesse !»
suppliait Anka en silence. Mais plus il regardait l'aïeul, moins il osait bouger. Comme s'il pressentait la futilité de tout geste et de toute parole face à ce qui tourmentait Rediwa et le pétrifiait.
Était-il donc si grave de peindre une croix rouge sur la devanture d'une case?
S'interrogea Anka. Décidément, Tad verra toujours autre chose derrière les plus simples choses. Plus que jamais, Anka était celui-là qui ne comprenait pas encore et qui devait se contenter de l'idée qu'il comprendrait plus tard, qu'il avait tout le temps pour comprendre. À cet instant pourtant, contrairement à son habitude, Anka s'étonna de ne pas éprouver la moindre rage face aux yeux de l'aïeul. Pour la première fois, cela ne lui déplaisait pas d'ignorer. Au contraire, il s'en réjouissait. Il souhaitait demeurer à jamais celui qui ne savait pas, car il sentait que c'était de savoir que son aïeul avait mal. Ce fut ainsi que le soir tomba, intensifiant les bruits du dehors comme si tout ce qui vivait alentour était pris de frénésie à la vue du soleil qui embrasait la mer avant de s'y engouffrer. Puis, sans transition, s'imposa l'obscurité avec son langage, bien distinct de celui du jour. Pour l'avoir si souvent entendu dire, Anka sut que c'était l'heure où même le poussin devenait sage en cherchant refuge sous l'aile de sa mère.
Comment saisir cette vérité et prétendre demeurer un enfant qui ignore?
Se demanda Anka. Il se leva et se glissa dans la nuit, jusqu'au bout du village, le long de la rivière de Gros Galet, là où se débusquaient les crabes. Comme si personne ne lui avait dit, comme ferait un enfant qui ignore. Son père était en mer. L'aïeul, comme Nindia, accaparé par leurs pensées, ne s'aperçurent de rien quand il sortit subrepticement par la porte entrebâillée.
Voilà la brèche par laquelle Ombre s'insinua. Le père rentrant de mer ne se met-il pas à chercher des yeux ?
Onka n'était pas là où il devait être à cette heure tardive. Cela suffit pour que ses parents s'en émeuvent. On partit à sa recherche, et quand on le ramena, le père lui demanda d'un ton sévère.
« Ne t'a-t-on pas dit que la nuit était un ennemi ?»
La mère, prévoyant le châtiment du père, autrement plus terrible que le sien, se précipita et frappa Onka sans même songer que la nuit, il n'était pas recommandé de porter la main sur un enfant. Les cris d'Onka montèrent dans la nuit. Ces cris à lui qu'on voulait forcer à comprendre, comme la gifle de la mère lui parut injuste. Il ne voyait pas quel mal il y avait à vouloir demeurer un enfant qui ignore. Alors Rediwa, que les sanglots de l'enfant avaient fini par arracher de son état second, se mit à protester.
« Qui donc a perdu la tête pour faire pleurer cet enfant ? Le jour, oui, la nuit, jamais ! Elle ne nous appartient pas. Qui donc prend la voix de cet enfant et l'offre en pâture ?»
À ces mots, la mère se rappela soudain qu'elle n'avait qu'un enfant. « Ne dit-on pas qui n'en a qu'un n'a rien ? Qui en a deux n'a qu'un ?» Désemparée, elle menaça Onka du pire s'il ne se taisait sur le champ. Alors Onka posa la main sur sa bouche pour étouffer ses sanglots. Mais la rôdeuse était là. Comment croire qu'Ombre n'avait pas tendu l'oreille et froncé les sourcils en écoutant les sanglots d'Onka dans la nuit ? En levant les yeux, elle vit que la lune était pleine. Elle avait la rondeur parfaite d'un visage d'épousée penché sur la table de noces. Alors Ombre sentit sa faim. Elle fit quelques pas, puis s'arrêta. Elle hésitait. Elle raisonnait à l'orée de ce village qui s'étirait entre le Grand Fromager et la rivière de Gros Galet, avec ses croix ruisselantes sous le clair de lune.
« Est-ce ici, l'amant ? Est-ce donc si simple ?»
Ombre croyait et ne croyait pas. Ses nombreuses défaites clamaient la présomption dans le moindre de ses mouvements. Elles entravaient son élan, tempéraient son envie effrénée de se précipiter. Ombre détourna doucement la tête. Elle voulait passer son chemin, quand la voix de la mère l'obligea à s'attarder.
« Onka, veux-tu ma mort ? Par les ancêtres, pourquoi as-tu des yeux si tu ne peux voir ? Ce soir, mon cœur n'a pas la paix. Les pensées s'enchevêtrent dans ma tête comme une forêt de palétuviers où la pauvre femme que je suis se perd. Tu penses que ce n'est pas assez ?»
La mère ne haussait pas la voix. Elle murmurait presque. Son ton était de confidence. Elle expliquait plus qu'elle ne grondait. Et Onka ne put s'empêcher de voir qu'elle regrettait de s'être laissée emporter, provoquant ces sanglots qui lui faisaient maintenant peur. Puisque l'enfant s'était tu et était allé se réfugier comme d'habitude auprès de son aïeul, la mère poussa un soupir. Elle se disait secrètement que les mânes soient loués pour le silence revenu, pour son enfant apaisé. Mais que savait-elle, la mère, du désir d'ombre en dérive ? Que savait-elle de sa faim ? D'avoir entendu les pleurs dans la nuit, la fille de la montagne, parée d'ocre et de kaolin, s'était sentie revivre. La voilà soudain arrêtée, comme son souffle même, ne quittant plus des yeux la case d'où partit l'appel. Son cœur battait si fort qu'elle ne pouvait entendre les vagues venant obstinément mourir au pied des bas damiers, ni leur clapotement contre les pirogues à l'ancre. Elle se mit à avancer. Tout lui disait que l'amant était là. Elle pénétra dans la case en terre battue. La lumière conjuguée de l'âtre et de deux lanternes sculptait des formes, ça et là, comme si la nuit ajoutait à toute chose une autre dimension. Ombre observait. Elle écoutait Onka égrener d'une voix monocorde les noms de ses ancêtres. L'aïeul hochait la tête, visiblement satisfait de ce que disait l'enfant. Parfois, il l'interrompait pour rectifier une erreur, tandis que la mère, non loin de là, surveillait les morceaux de poisson sur le grill au-dessus de l'âtre et que le père accommodait un filet accroché à une poutre. Ombre observait. À première vue, il n'y avait rien de singulier dont ce qu'Ombre voyait. Quelque chose pourtant la déconcertait. Ce silence peut-être où tout semblait baigné et dont la gravité s'accordait mal avec les gestes simples qu'elle observait.
« Rediwa, fils de Rekota, fils de Rejao. »
La voix d'Onka flottait sur ce silence. Elle sonnait claire, excluant toute arrière-pensée, faisant oublier que c'était la même qui se déchira de sanglots quelques instants auparavant. Alors Ombre, venue pour le sanglot, se demanda si par ce détour, elle ne se fourvoyait pas encore. Mais à ce moment précis, la mère de l'enfant se leva et alla allumer la torche de résine plantée au seuil de la porte.
« Ce C'est vrai,
dit alors le père en la regardant faire.
Je n'avais même pas vu que la torche ne brûlait pas.
Se levant à son tour, il alla chercher du vieux rhum qu'il versa au pied de la torche. Après avoir scruté un instant le ciel, il but un peu de ce rhum à même la bouteille.
La lune est vraiment pleine,
lança-t-il avant de revenir à son filet. Ombre ne put s'empêcher de sursauter. Ne venait-on pas de lui confirmer que la saison était celle où les filles de la montagne prennent amant ? La lune était pleine. Ombre s'enfiévra.
Kota, pourquoi ne dis-tu rien ?
Qu'a-t-il à dire, Ninja ? La pêche a été bonne, comme tu le vois. Que les mânes soient loués.
Ne me dis pas que tu n'as pas vu.
Quoi donc ?
Tous ces traits rouges qui blessent le regard.
Fit simplement Kota, comme s'il s'agissait là d'une chose qui ne méritait pas d'être relevée.
Ce sont les hommes du cadastre,
insista la mère.
Ils sont venus cet après-midi et ont mis tout ce rouge sur les cases.
Kota saisit des deux mains un pan du filet qu'il déploya pour mieux repérer les trous. Sans paraître le moins du monde alarmé par les propos de sa femme, il continua à raccommoder.
« Il y a longtemps que tout le monde ici le sait, »
répondit Kota d'un ton péremptoire.
« Depuis le temps qu'ils nous le disent. Le village est mal placé. La ville doit venir jusqu'ici. Nos cases sont d'une autre époque. Elles choquent les visiteurs étrangers. Nous savons tout cela. Est-ce que nous sommes partis pour autant ? Ce ne sont donc pas ces croix qui changeront quelque chose. Tant que le village est celui-ci, nous ne bougerons pas. »
Mais que pouvons-nous contre eux ? En général, quand ils veulent quelque chose, ils l'obtiennent par tous les moyens.
Ils n'obtiendront rien ici, Ninja. Ils n'auront pas une parcelle de nos terrains.
Que les mânes t'entendent,
soupira Ninja, peu convaincue par les propos de Kota. Pour elle qui, en toutes circonstances, envisageait le pire, et pour qui un dénouement heureux présumait seulement de la grande sollicitude de quelque esprit bienfaisant, l'optimisme affiché par Kota ne pouvait qu'ajouter à son désarroi. Si l'homme ne s'alarme pas d'avance du sort qui lui est réservé, comment peut-il espérer la moindre compassion ? Pensait-elle en regardant le rougeoiement du charbon qui pâlissait sous la cendre. Peut-être valait-il mieux pour le poisson, qui n'était pas encore fumé à point, qu'elle ranima un peu la braise, mais elle préféra ne rien faire, prise soudain d'une immense fatigue mêlée d'angoisse. Et le silence revint, plus pesant que tout à l'heure. D'un coin à l'autre, il semblait tout saisir. Seul Onka échappait encore à son étau. Assis sur les genoux de l'aïeul, il ne se demandait même pas pourquoi Tat ne hochait plus la tête pour approuver ce qu'il disait. L'enfant exigeait que l'aïeul prononce un nom d'ancêtre juché sur le ton et qu'il irait cueillir lentement, en prenant soin de ne pas se tromper. Onka insistait, mais Tat ne semblait pas l'entendre. Ses oreilles étaient comme assourdies par un tumulte qu'Onka ignorait. Pour la première fois, Ombre voyait se fissurer le rempart derrière lequel se claquemurait un amant. L'errance, la fatigue, la faim s'évanouissaient soudain de sa mémoire pour ne laisser place qu'à la certitude de l'étreinte. Au sein de ses aînés, elle se voyait déjà. C'est pourquoi, sans plus de crainte, elle s'avança et alla se carrer devant Rediwa, dont elle tinta la vision d'ocre et de kaolin. Et l'aïeul, considérant l'ocre et le kaolin qui jonchaient ses yeux, sut qu'Ombre était là. Il se dit qu'elle arrivait à temps. Que les mânes soient loués.
Qui te dira, Anka, si ce n'est moi ?
Murmura Rediwa.
Qu'aurais-je fait, Anka, si en partant je ne t'avais d'abord dit « Tu es si petit, et le monde si lourd à porter. Qu'aurais-je vraiment fait si en partant je ne t'avais appris ?»
Alors, Tat pencha doucement la tête, comme pour signifier un oui à Ombre. Oui à son chatoiement fait pour surgir du profond des contrées où l'homme se lamente. Ils se regardèrent, Tat et Ombre, en cette nuit de pleine lune. Tat la souleva délicatement de sa voix qui savait emprunter toutes les nuances de ce qui bruit. L'aïeul parla, et ce fut Ombre qui se crut conduite à l'étreinte. Rediwa conta, et ce fut Onka qui se mit à dormir tout simplement, bercé comme il lui était déjà arrivé certains soirs, quand la voix de l'aïeul se faisait chant.